parce qu'elle travaille à l'INA. L'INA offre un outil très intéressant qui permet d'accéder à certains corpus. Et voilà, je ne sais pas combien de chercheurs sont en connaissance de cette opportunité, et je trouve intéressant soit la possibilité qu'il y a ces corpus, soit la, comment CNEP a décidé de construire l'interface d'accès, parce qu'il s'est posé, c'est un travail, on peut dire, non, itératif avec les chercheurs, et qui continue à se développer sous la base des différentes demandes des chercheurs. Alors, voilà, c'est pour ça que je trouve très intéressant la question de l'interface.
D'accord, merci pour l'invitation déjà. Et nous, à l'INA, on a une équipe de pologues de web qui travaille sur la collecte et consultation de tweets. Au début, au cas où, si vous ne connaissez pas, il y a une loi qui s'appelle des pologues du web. Donc, par rapport à cette loi-là, qui est passée en 2006, INA et BNF, nous sommes responsables d'archiver les sites web dans le cadre du dépôt légal. Le dépôt légal du web. Donc, ça ressemble vraiment comme le dépôt légal des livres. Par contre, ce n'est pas les écrivains qui viennent nous dire, voilà, je viens d'écrire un post sur le page web, est-ce que vous pouvez archiver? Donc, ça doit faire une façon automatique. Et nous, à l'INA, on est responsable de les sites web ou tous les services de communication au public par voie électronique édités par les chaînes de radio et télévision. Et pourtant, essentiellement sur le contenu de la radio et télévision, c'est-à-dire toutes les chaînes officielles de radio-télé, tous les sites officiels des émissions, etc., mais aussi les gens, par exemple, qui ont des blogs où ils critiquent les émissions à la télé ou à la radio, etc. Et le reste, c'est par le BNF. Dans ce cadre-là, comme le web évolue, etc., on a commencé à archiver les tweets aussi depuis février 2014. Et aujourd'hui, on a plus que 700 millions de tweets dans notre corpus. Et par contre, la captation, ça n'est pas fait par les robots classiques archivage du web. Parce qu'on s'est dit que les tweets peuvent être consultés aujourd'hui à différentes manières. C'est-à-dire, vous voyez ici, vous pouvez utiliser les pages web de Twitter, twitter.com, ou vous pouvez consulter, lire les tweets dans une autre page. Dans une autre page, ici, c'est elysee.fr et il y a des tweets qui se trouvent dans les pages, ou vous pouvez utiliser les applications sur votre téléphone portable, etc. Donc, il n'y a pas une version canonique au niveau d'archivage pour archiver les tweets. Donc, on s'est dit qu'on va archiver les données plutôt que les représentations, comme il y en a plusieurs représentations. Pour ça, on a utilisé les API, comme Thomas a présenté pendant la première présentation, Application Programming Interfaces. Et la deuxième raison, parce que les métadonnées sont beaucoup plus riches que ce qu'on voit sur l'écran, sur twitter.com, quand on voit un tweet, on voit les hashtags, les mentions, les dates, etc. Mais il y a des autres informations comme les géolocalisations qu'on ne peut pas voir, ou le langue qui est détecté automatiquement, le langue de tweet par les algorithmes de Twitter, etc. Et pour 140 caractères, on a plus que 30 différents types de métadonnées. Et entre 3000 et 4000 caractères en tout, ça fait. Et le texte représente qu'environ 5% de cette information-là. Et par contre, il y a des restrictions avec les API de Twitter. Il y en a deux, comme REST API, qui nous permet de récupérer les tweets historiques, par exemple, d'un utilisateur. Mais comme on en a parlé avant, c'est 3200 tweets historiques qu'on peut récupérer, pas plus. Pour quelqu'un qui est très très actif ou pour un compte qui diffuse 100 tweets par jour, ça fait un mois à peu près, mais pour quelqu'un qui tweete un tweet par jour, ça peut aller très très loin. Mais en même temps, on peut pas, nous actuellement on suit plus que 13 000 utilisateurs autour de radio-télé. Par contre, on peut pas demander à Twitter plus que 450 demandes par 15 minutes d'intervalle. 450 demandes, c'est rien pour nous. Ça prend 3 minutes à peu près de récupérer toutes les données de ces utilisateurs. Mais après, nous, on attend. On attend que Twitter nous permette de redemander, etc. Et ça, c'est 15 minutes. Et avec Streaming API, il n'y a pas de données historiques. On nous dit que ça marche comme un enregistreur. Dès que vous lancez votre programme ou votre process avec les hashtags ou les mots-clés, ou, etc., choisis, vous pouvez enregistrer tout. Par contre, il y a une limite très, très importante. Qui s'appelle rate limit chez Twitter, c'est on peut récupérer que 1% de tweets publier globalement pour atteindre T, pour un moment donné T. Mais là, après, chaque fois quand je présente ça, il y a des chercheurs qui viennent me voir après, ils disent, oui, mais 1%, ça ne veut rien dire, on ne veut pas travailler avec 1%, ce n'est même pas représentatif. Mais non, c'est pour ça, je fais un exemple ici. Par exemple, le premier colon montre les TIVIT global, le flux global de TIVIT. C'est-à-dire que ça ne contient pas le hashtag ou le mot-clé que vous cherchez peut-être. Ok, il commence à tomber. TIVIT 1, 2, 3, 4, 4, 4, voilà. Il y a 1000 TIVIT à un moment donné. Mais vous, bah, nous, on est intéressés par le hashtag le grand débat. Ok, les hashtags le grand débat 1, 2, ça tombe, voilà. Et à la fin, 1% de tous les TIVIT à un moment T, ça fait 100 TIVIT. Mais le grand débat, il y en a 200. Je ne peux pas avoir tous les 200 parce que j'ai dépassé le 100 TIVIT, mais ça ne fait pas 1% de TIVIT qui contient le grand débat, ça fait quand même la moitié. Donc c'est assez représentatif, donc il faut faire attention à ça. Et toutes ces restrictions, on en a parce que il y a un système qui s'appelle Firehose, il y a deux entreprises, Guinip et DataSift est fermé, je pense, très récemment. C'est eux, bah, ils ont été achetés par Twitter dans tout cas. Donc, tout ça, c'est parce qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec ces données-là. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas envie de nous donner directement. Donc, il faut acheter et c'est vraiment, les corpus coûtent très, très cher. Ça dépend, ils vous demandent un devis, qu'est-ce que vous voulez, etc. Par rapport à la taille, etc., ils vous facturent. Voilà. Et nous, avec le REST API, on suit aujourd'hui plus que 13 000 utilisateurs. Ici, vous pouvez voir la distribution. Au début, on en a eu beaucoup, énormément, c'est normal parce qu'on a lancé pour plusieurs comptes et on a récupéré 3200 de tout le monde historiquement, donc ça fait s'accumuler. Et en total, à peu près 90 millions de TIVIT viennent de cette façon de l'archiver. Avec Streaming API, c'est beaucoup plus différent. On suit à peu près 600 hashtags, malgré la limite de 400 hashtags qu'on peut suivre. On a lancé deux comptes séparément pour suivre beaucoup plus. Et en total, plus que 500 millions de TIVIT viennent de là. Et ici, par contre, vous pouvez voir les événements des attentats, les événements, etc. Parce que les hashtags sont ajoutés très rapidement et là, on peut visualiser directement. On a des autres sources parce qu'on peut, par exemple, pour les « Je suis Charlie »,« Charlie Hebdo », etc., il y a une entreprise qui s'appelle Linkfluence. Eux, ils étaient beaucoup plus réactifs que nous. Nous, on a commencé à archiver le lendemain. Donc, on a récupéré les ID. Mais ça, c'est important parce qu'on récupère que les ID. Parce que les Twitter, normalement, c'est interdit de diffuser les données. Vous pouvez diffuser les ID. Mais la personne qui récupère les ID doit réarchiver, décapter tous les tweets à partir de ces ID-là. Et pour les attentats aussi, on suit assez régulièrement. Par exemple, ça, c'est assez intéressant. Le hashtag « Je ne suis pas Charlie » parce que nous, le moment qu'on choisit les hashtags, la sélection, c'est assez important. Mais nous, on n'a pas prévu que « Je ne suis pas Charlie », ok. Mais après, il y a des chercheurs qui sont venus nous voir et disent « Bah oui, mais moi, je suis intéressée par le hashtag « Je ne suis pas Charlie ». Je travaille sur ça. Ok, qu'est-ce qu'on fait ?» assez régulièrement, on suit les articles publiés. Et là, on a trouvé quelqu'un en Italie. Il a acheté les données à partir de Guinip. Donc, il a le corpus complet pour une semaine de l'attentat de Charlie Hebdo pour le hashtag « Je ne suis pas Charlie ». On récupère ces ID-là et on réarchive et on intègre dans notre archive. Comme ça, on peut enrichir à quel moment sans interrompre la cohérence de notre archive. Donc, c'est archivé par linéaire en autre façon, etc. Juste par une autre technique. On a des différentes collections. La première collection, on l'a passée à Mediasphère. Et c'est la collection, notre collection principale qui est autour de l'audiovisuel français. Donc, j'ai dit 12 000, mais aujourd'hui, c'est vraiment plus que 13 000 utilisateurs qui ont suivi leur timeline. C'est comme TF1, France 2, RFI, etc. Après, pour le streaming, on suit 400 hashtags. Aujourd'hui, on a passé 460, je pense. C'est comme les hashtags des émissions TPMP, Quotidien, Le 20h, etc. Et là, très, très récemment, on a remarqué que surtout pour les archivages des hashtags, parce que nos hashtags et nos timelines à archiver sont choisis par nos documentalistes à l'INA. Il y a des gens qui font des veilles assez régulièrement sur le média, ils décident, on doit archiver cet utilisateur, voilà, on doit archiver cette personne, cet hashtag, etc. Et par contre, pour les hashtags, comme on ne peut pas récupérer historiquement beaucoup, il faut être très, très réactif. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place, on a commencé à archiver les trends en France. Tous les trends, on archive aussi le contenu de trends. C'est-à-dire le hashtag qui est devenu quelque chose de... En tant que le hashtag reste ou le mot-clé, c'est pas grave, dans les trends, ça peut être une journée, ça peut être une heure, etc., on archive. Comme ça, ça nous permet d'être beaucoup plus actifs.
Excusez-moi, c'est Twitter qui fournit ce que sont les trends?
Oui, il y a un API spécial qu'on peut demander que des trends en France, en disant géolocalisation en France ou dans tout le monde. D'accord. Nous, on demande en France. On reçoit une liste autour de 50 premiers. Ce n'est pas comme sur les pages web, il n'y en a pas que 10. Ou il y en a beaucoup plus, mais voilà. En tant que le mot-clé ou le hashtag reste dans les trends, on archive. Et une fois que c'est fini, on arrête d'archiver. Et après, on a fait des collections d'événements. Collection des attentats, malheureusement, il y en a beaucoup. Voilà. Et après, on a une collection aussi liée aux élections. 2017, et on a fait une collection spéciale Élise Veillard parce qu'avec les France Télé, on était dans un projet spécial. Eux, ils nous ont demandé d'archiver les comptes Twitter des candidats officiels. Ok. Et là, quand on archive les métadonnées, les données, tout court, et ça vient avec une question, voilà, comment... Avec quel outil maintenant, comment on va rendre tout ça visible aux chercheurs, etc. Et comme il n'y a pas une représentation canonique, donc qu'est-ce qu'on fait? C'était ça la question. La première utilisation qu'on a pensée, quand même, on a INA, Institut National Audiovisuel, on a une grande archive de radio-télé classique, archive classique. On s'est dit qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui s'appelle « second screen ». C'est-à-dire que les gens, pendant qu'ils regardent la télé ou ils écoutent une émission, ils continuent à interagir en envoyant les tweets, par exemple, etc. Donc, second screen, je vais vous montrer en démo, met nos archives classiques avec nos archives du web ensemble, les tweets. Donc, pendant l'émission, on peut regarder en parallèle qu'est-ce qui était tweeté qui concerne cette émission-là. Mais après, nos utilisateurs principaux, quand même, c'est des chercheurs. Et là, on n'a pas pu faire les outils très, très génériques parce qu'on sait que les chercheurs, vous cherchez plutôt un truc très spécifique et donc un outil générique, ça ne répondra pas à vos besoins. Mais on ne pouvait pas faire un outil très spécialisé par rapport à chaque recherche, par rapport à chaque chercheur qui vient de nous voir. Pour nous, la résolution de ce problème, c'est plutôt faire Open Data. C'est-à-dire que vous venez, vous récupérez votre corpus et vous partez et vous utilisez les outils que vous avez chez vous, vous avez l'habitude à utiliser, etc. Mais là, on n'en a pas là parce qu'on est dans le cadre de dépôt légal du web et on ne peut pas sortir les données. Et moi, je veux faire un petit hommage à Louise Marzo ici parce qu'on a beaucoup travaillé avec elle pendant la construction de cette interface-là. Et on a aussi regardé les articles publiés autour de Tweet, les chercheurs, qu'est-ce qu'ils font. Et là, on a récupéré les utilisations. Les plus importantes, c'est les timelines. Chaque chercheur est intéressé par l'utilisation des timelines. Après, il y a les agrégations, comme les agrégations, les hashtags les plus utilisés, les mentions, les images les plus diffusées, les liens les plus utilisés, les emojis les plus utilisés, etc. Et après, on a vu aussi qu'il y a une sorte de tendance d'utiliser les nuages de mots. Pour dire au plus ou moins, on parle de quoi, tous ces tweets-là, etc. Ici, vous voyez notre interface qui est... je vais faire un petit démon, c'est sur les attentats, mais ce n'est pas lié aux attentats, donc vous pouvez chercher des autres thèmes aussi. Ils sont accessibles au point de consultation de l'INATEC. Ici, à Paris, c'est à la BNF, à la Salpe. Voilà, une fois que vous êtes là, vous cliquez Twitter, voilà. Ici, vous pouvez voir, on montre au début le timeline, tous les tweets qu'on a, avec une option qui permet de faire, de zoomer, etc. Et en total, ici, on voit vraiment directement les attentats. Ça, c'est les attentats du 13 novembre. Ici, c'est Charlie Hebdo, etc. Et après, ça permet de faire comme un moteur de recherche normal, une recherche par mot-clé. Et sinon, on peut filtrer par rapport au temps, par rapport aux hashtags, les mentions, les utilisateurs. Je suis intéressée par que cet utilisateur-là. Par le langage, je suis intéressée par les tweets en français. Ça permet aux chercheurs de... En réalité, toutes les requêtes ici, où on peut exclure ou inclure les retweets ou les citations, ça permet de créer un sous-corpus qui intéresse le chercheur, en réalité. Ici, c'est les visualisations. Avec les métadonnées, on peut enrichir. On peut mettre les utilisateurs, les mentions, toutes les métadonnées qu'on peut trouver. On vient d'ajouter les images aussi. Normalement, dans cet exemple, il n'y a pas des images. Mais après, on a aussi ajouté analyse parce qu'on a remarqué que les gens, ils ont besoin de comparer les diffusions, les disparitions et apparitions des hashtags, etc. Ici, vous pouvez voir qu'on compare le hashtag Bataclan, Porte Ouverte et Recherche Paris. Et là, c'était Jérôme Truc, chercheur qui travaillait sur les sujets. Il a remarqué qu'à un moment donné, quand cette porte ouverte est diminuée, c'est Recherche Paris qui a commencé à augmenter le hashtag parce que les gens, ils se sont sauvés, ils ont commencé à demander où est mon ami, où est ma femme, où est mes enfants, etc. Donc, après, on a fait les dashboards aussi qui donnent des statistiques principales. C'est-à-dire les distributions, combien de tweets par rapport à ce corpus-là qu'on a choisi en haut, exactement comme on a choisi ici pour les dates données, etc. Distribution de retweets, distribution par pays, par ville, etc. Mais ici, je vais arrêter parce que... Désolée. Parce que c'est très important pour nous, pour dire aux chercheurs, vous ne voyez pas sûrement, mais ici, on dit distribution par pays. Mais il dit information trouvée dans 2% de TVIT, par exemple. Parce que les gens, ils doivent savoir à quel point cette information est représentative. Pardon. Ok, voilà. Et comme on a choisi français, distribution par langage, ça fait 100% français. Et toutes ces informations-là, les utilisateurs peuvent exporter et partir avec ces données chez eux pour continuer à travailler. La seule chose qui ne peut pas sortir, c'est le contenu de tweet. Et ici, c'est les hashtags les plus utilisés. Encore une fois, avec le pourcentage, combien de résultats contient cette information. On peut faire exactement la même chose avec les utilisateurs les plus actifs, etc. Et avec les images, on peut faire les images les plus utilisées, les plus citées. Et on peut générer les nuages de mots et on peut exporter les nuages de mots aussi pour les résultats, pour les requêtes données. Et on peut choisir combien de mots qu'on veut et on peut ajouter aussi. Parce que pour le nuage de mots, des fois, les chercheurs veulent éliminer les hashtags. Parce que les hashtags, c'est normal qu'ils sont très grands et ils sortent en premier. Ça empêche d'étudier le contenu, vraiment le contenu de TVIT. Donc, ça permet d'éliminer ça aussi. Et ici, c'est l'application de Second Screen. À partir du catalogue général de l'INA, cette interface peut changer, mais l'idée est plus ou moins là. Par exemple, les 4 juin... on regarde le BBC dans nos archives classiques radio-télé de l'INA. On choisit une émission. C'est le journal, le BBC. Ici, on écrit les hashtags ou les mots qu'on est intéressé, comme London et London Attacks. Et on fait chercher. Ici, vous voyez la distribution des hashtags. Mais ça, c'est dans le temps de l'émission. OK? Et quand on commence à... jouer la vidéo, comme ici, ils synchronisent et vous pouvez voir la réaction des gens en même temps que en écoutant l'émission. Et ça permet surtout les chercheurs qui travaillent sur les émissions. On a une chercheuse qui travaille sur TPMP Donc, quand il y a un événement, elle est capable de voir comment les gens ils ont réagi en même temps. Et là, les mêmes statistiques, ça existe, les distributions, etc. Et on a ajouté dans notre interface aussi les emojis les plus utilisés pendant les missions, mais aussi dans l'interface, il existe pour les sous-corpus les emojis les plus utilisés. Ça, c'est pas accessible encore, cette interface aux utilisateurs. Si vous allez à l'Inatech et vous demandez « Ah, moi j'ai vu quelque chose, je veux utiliser. » Non, ça c'est un prototype. Et on travaille encore pour l'améliorer. Mais l'idée est plus ou moins c'est de permettre les gens consulter les archives télé avec les archives Twitter. Et là, on vient en question de complétude de nos archives. On en a parlé, on archive les images. Une fois qu'on a archivé les tweets, on extrait les liens des images et on les archive. On archive les vidéos qui se trouvent dans les tweets, etc. Et nous, on peut dire qu'avec le streaming, les données qu'on obtient avec les API de streaming sont la plupart du temps complets. C'était exactement comme le cas parce que les émissions, c'est-à-dire que notre périmètre en tant que l'INA radio-télé, on n'est pas capable de produire énormément de hashtags qui va dépasser 1% de flux global, tous les tweets qui ont été publiés. Par contre, pour les événements, comme les élections ou comme les attentats qui dépassent un peu nos frontières, ça arrive. Et là, plus ou moins, on peut dire que les chercheurs sont beaucoup plus intéressés sur les événements comme ça mondial que les émissions à la télé des fois. Là, ça vient avec la question, est-ce que l'échantillon qu'on obtient, est-ce que c'est représentatif pour faire des analyses, pour faire des recherches? Mais malheureusement, il n'y a pas de documentation officielle de côté Twitter pour dire comment qu'est-ce que représente cet échantillonnage. C'est quoi l'algorithme derrière? Est-ce que c'est distribué uniformément ou il y a des poids sur les certains hashtags ou c'est les plus récentes qu'on vous livre et je ne sais pas, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça marche. Par contre, il y a des recherches, des chercheurs qui ont acheté des données de GNIP pour un hashtag donné et ils ont archivé en utilisant le streaming API. Ils l'ont comparé pour dire est-ce que c'est bon ou pas. Et le résultat, c'est que les données sont biaisés. C'est-à-dire que, surtout, on n'archive pas un seul hashtag. On archive, par exemple, nous, quand on fait une requête vers Twitter, c'est 400 hashtags en même temps. Donc, quand il y en a un qui pose un problème, c'est-à-dire qu'il devient très, très populaire, on ne sait pas ça vient de quel hashtag, quand même, automatiquement. Parce que c'est un ensemble de 400 hashtags. Et là, comme ils ne nous donnent pas une distribution uniforme, c'est assez difficile à faire des estimations. Pour ça, on a mis ensemble les différents API. Pour les événements, quand c'est nécessaire, on utilise aussi l'API Search, qui n'est pas complet, okay, parce qu'eux non plus, ils n'indexent pas tous les tweets pour leur moteur de recherche, donc ils indexent les plus récents et les plus pertinents, etc. Mais au moins, ça nous permet de compléter plus possible notre corpus, notre archive. Par contre, en même temps, on travaille sur les méthodes d'estimation. Parce que quand on commence à archiver, ici, vous allez voir, ça c'est notre requête. Il y a à peu près, pour les attentats, il y a à peu près 40 hashtags qu'on suit. Et là, quand vous lancez Streaming API, Twitter commence à vous donner les métadonnées chaque ligne. Imaginons chaque ligne. Et à un moment donné, vous avez une erreur comme ça, limite. Au lieu de métadonnées d'un tweet, vous recevez ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pour un temps donné, vraiment en millisecondes, Twitter nous dit pour votre requête, je ne peux pas vous livrer 2058 tweets. Il y en a 2058 qui viennent d'arriver, mais vous dépassez le 1% d'erreur. Donc voilà. En utilisant toutes ces informations-là, on travaille sur les méthodes d'estimation. Et ici, parce que pour nous, c'est important que les chercheurs qui travaillent avec nos données sachent qu'on en est où. Combien on a dû avoir, on le montre en rouge. Ça, c'est par exemple pour les hashtags Bataclan. On a dû avoir en complet, mais ça reste encore une estimation, en rouge, mais on en a les bleus. Voilà, après, c'est les chercheurs à décider comment décrire dans son article, cet corpus, comment décider est-ce que c'est représentatif ou pas, etc. Mais là, cette approche, on n'a pas mis encore, encore une fois, si vous allez à l'INATEC, vous n'allez pas voir ce groupe rouge, parce qu'il nous faut des données complètes pour décider est-ce que notre algorithme d'estimation, ça marche bien ou pas, pour comparer à la fin et pour dire estimation marche avec une erreur epsilon de X, etc. Donc, on n'en est pas capable de faire ça, donc... c'est pour ça qu'on attend pour obtenir les données complètes pour un corpus. Et si vous êtes intéressé pour utiliser ces données, etc., vous pouvez contacter Claude Mousseau, qui est le responsable de l'INATEC. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter, INADALWEB ou INATEC1. Voilà, merci.
Il semble qu'il y a une interface dans laquelle on peut voir les tweets. On ne peut pas ramener à la maison des tweets.
Oui, oui. Si, si, il y a un endroit que...
C'est très bien parce que vous avez reconstruit...
Oui, oui, il y a un endroit qu'on essaye de donner un petit peu le look Twitter, oui, oui. Exactement avec les logos, avec les images et tout ça, voilà.
On ne peut pas les exporter de l'extérieur, mais on peut avoir un aperçu. Oui. On peut quand même consulter.
Voilà, c'est ici à peu près. On enrichit, mais ici derrière, on voit avec tous les emojis et tout ça, des hashtags, des liens, les tweets. En réalité, dans l'interface, c'est le seul endroit qu'on ne peut pas exporter les données. Parce qu'il y a le nombre d'utilisateurs, il y a le contenu, tout le texte. Donc, ce qui fait droit d'auteur en réalité, c'est cette partie. Mais sinon, les agrégations, les timelines et tout ça, ça ne pose pas un problème ou les hashtags les plus utilisés. Même les nombres des utilisateurs plus actifs, ça ne pose pas un problème. C'est juste de faire la liaison entre le contenu et l'utilisateur. Normalement, s'il y a des images, on les voit ici, exactement comme on utilise. On ne voit pas les vidéos pour l'instant, mais c'est en cours. On va aussi mettre les vidéos exactement.
Et juste pour les images, c'est pour poser l'action. Les images sont reconstruites, que ce soit des images jointes ou des images à lesquelles les URL pointent.
Voilà, ça c'est une bonne question parce que il y a deux façons de mettre une image. Le premier, c'est en utilisant ajouter une image qui se trouve dans un endroit spécial dans les métadonnées, qui est dans les médias. Et l'autre façon, c'est vraiment utiliser une image qui se trouve dans la page lemonde.fr/quelquechose.jpg, par exemple. Nous, on ne peut pas détecter si un URL est une image ou pas. On peut faire des petits trucs comme si ça termine par JPEG, PNJ et tout ça, mais ce n'est pas suffisant. Surtout pour les collègues de 700 millions de tweets, ça ne garantit pas que cette URL, c'est vraiment... ou un autre URL, ça contient une image ou pas. C'est clair. Donc, les images qui sont ici, c'est que les images qui se trouvent dans les métadonnées, dans les parties médias. C'est-à-dire que l'utilisateur a utilisé l'interface de Twitter pour dire, OK, je suis en train d'envoyer une image à vous. Donc, et là... Ça, les exemples qui sont ici, parce que j'ai deux présentations, vous étiez intéressés à les diffusions des images, etc. C'était utilisation basique vraiment de l'interface. Mais on peut faire des requêtes beaucoup plus compliquées. Par exemple, ici, dans les parties de recherche, on a fait exprès pendant l'indexation, on n'a pas changé le nombre de métadonnées. C'est-à-dire, quelqu'un peut venir et dire media.media_URL.com son URL et trouver tous les tweets qui contiennent cette URL. Donc automatiquement, tous les statistiques, parce que c'est en train de créer un sous-corpus, tous les statistiques, les hashtags les plus utilisés, c'est-à-dire avec cette image-là, et les utilisateurs qui ont plus diffusé avec cette image-là, etc. Donc c'est possible de faire des requêtes vraiment très très poussées, très très croisées. C'est une mode avancée.
sont dans les sciences de l'information et de la communication. Pourquoi pas la psychologie sociale, pourquoi pas les statistiques, pourquoi pas autre chose, je ne sais pas.
Moi, je n'ai pas très bien compris la question, je crois, mais...
Et peut-être, non, je vais répondre.
Ouais.
J'ai invité dans les cadres de la thématique patrimoine culturel archive, un exemple d'archive qui, je l'ai dit, peut s'appliquer à un chercheur en sciences de la communication ou intéressant la démarche d'archivage et en même temps intéressant la économie, comme on l'a dit,
parce que nous, c'est ça, en réalité, nous sommes à l'INA plutôt une équipe très technique, comme des informaticiens et tout ça, ben, on sait développer des outils, on sait capter les tweets, etc., mais on ne fait pas la recherche. C'est pour ça qu'on ne peut pas se mettre dans le pot des chercheurs qui travaillent vraiment sur les questions de recherche en sciences sociales. C'est pour ça que c'est très important pour nous de travailler avec les chercheurs, comme on a fait avec Louise Marzeau, Valérie Schaeffer, Jérôme Truc, etc. Parce que c'est eux, par exemple, au début, les emojis, ça me disait rien, honnêtement. Moi, je voulais pas, ça m'intéressait pas, j'utilise pas personnellement non plus. Mais les chercheurs, ils ont demandé, oui, mais nous, c'est très important pour nous, on aimerait bien voir liste des emojis, les plus utilisés, etc. C'est grâce à ces interactions comme ça que les outils, nos outils se développent et nous, on ajoute les différentes fonctionnalités. Mais sinon, nous, on ne s'est pas demandé la question de recherche de sciences sociales. Vous voyez, donc. Exactement, c'est ça l'idée. Parce que nous, pendant les attentats de Londres, on a hésité à un moment donné, est-ce qu'on archive ou pas, par exemple. Parce que, ok, ce n'est pas en France, mais c'est les attentats quand même, mais... On ne veut pas devenir quand même des polygales du web des attentats dans le monde non plus. Donc, voilà. Donc, il y a eu une hésitation vraiment. On en a discuté dans l'équipe et tout ça. Et là, après, il y a un chercheur qui nous a envoyé un email en disant, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, archiver ces hashtags-là parce que c'est important pour nous. Après, on peut utiliser pour comparer les réactions attentats en France et les réactions attentats à Londres, etc. Donc, on a lancé. Mais... vous voyez, c'est pas toujours facile pour nous de demander de bonnes questions au niveau utilisation, mais au niveau de collecte aussi.
Bah merci pour votre présentation, j'ai appris plein de choses. J'avais une question sur l'interface, qui est à mon niveau très impressionnante, et c'est difficile de rivaliser avec la force de frappe de développement de l'INA, c'est sûr. Du coup, première question, est-ce que le code de l'interface graphique...
On peut partager, mais le problème de partager ce genre de code, parce qu'il y a une web service derrière.
Oui.
Nous, on utilise Elasticsearch comme base de données. Ok, donc Elasticsearch, il y a une web service, et après, il y a le code de l'interface qui est en pure HTML, JavaScript, etc. Mais qui utilise les autres parties de. Par exemple, dans les web vidéo, qui partagent des bibliothèques de code et tout ça. Oui, de l'INA, exactement.
Donc, il y a des dépendances vers l'API Elasticsearch et des dépendances vers les API de l'INA.
Oui, mais si vous voulez, on peut partager, mais vous ne pouvez pas le tourner directement. C'est ça que je veux dire. Il y a tellement de dépendances autour. On peut partager le code, ça ne nous dérange pas. Parce que dans les conférences, ils nous demandent toujours, OK, c'est super vos outils et tout ça, mais ce n'est pas open source, comment on peut faire? Bah, premièrement, pour faire open source, par exemple, vous avez dit que vous allez mettre votre code sur GitHub, etc. Ça, il faut maintenir le code.
Ah oui, non, bien sûr.
Ce genre de choses. Et nous, avant tout, à l'INA, l'important, c'est la qualité de nos archives, pas la qualité de notre code ou de nos logiciels et tout ça. Donc, on n'a pas le temps et il faut investir.
Exactement.
Oui, oui, je sais, mais on reçoit beaucoup ce genre de questions. Ça ne nous dérange pas de vous envoyer même nos codes de comment on capte et tout ça et tout, parce que bon, bah, c'est pas secret, hein, donc, mais en même temps, c'est dans un grand framework, vraiment très, très grand. Donc, par exemple, pour l'archiver, il faut une autre dépendance de bibliothèque qui est dans un autre projet, dans un autre projet, dans un autre projet. C'est juste, ça peut vous servir pour vous inspirer, voilà, mais ça ne sera jamais un truc que vous pouvez installer et tourner. C'est ça que je veux dire.
En fait, l'implicite dans ma question, c'était qu'il y a plein de fonctions que je vais vous piquer, je pense, et que je vais rien.
D'accord. Ok, c'est pour ce genre de choses, c'est bon. Parce que... Oui, ouais. Ça ne veut pas
dire. Notamment le top des émoticônes, là, c'est chouette, et ça, je pense que je vais le... Les requêtes croisées, c'est génial. C'est tout simplement génial. Donc, c'est très, très riche pour nous, ce genre de démonstration. Et j'avais une seconde question. Est-ce que vous pourriez détailler un petit peu le protocole de collecte des images? Ou alors c'est pas
oui,
compliqué,
je peux.
Vous l'avez dit.
Bah, en réalité, nous, on a une procédure pour l'archivage du web. On a des robots qui archivent, mais on a un autre système qui s'appelle Live Archiving Proxy. Ça, c'est un système spécial qu'on a développé pour l'archivage des sites web pour une fois, où il y a beaucoup d'interactions. Vous voyez, quand on archive les sites web, il faut archiver les interactions aussi. Donc, le robot doit être capable de cliquer sur le lien, le suivre, etc. Mais des fois, il y a des interactions de JavaScript qui sont très fortes. Donc, il y a un humain qui doit intervenir pour générer cette interaction, pour être capable de capter le page web tel quel. Pour ça, on a développé un système. C'est vraiment comme c'est une extension de Firefox. C'est pour nos documentalistes. Par exemple, nos documentalistes, ils décident qu'il y a un site web, une page. C'est pas la peine d'archiver régulièrement, mais ça serait bien de l'archiver une fois qu'on trouve dans notre archive une trace. Vous voyez, ce genre de choses où il y a des tellement d'interactions qu'il y a un humain qui doit cliquer, etc. Ce Live Archiving Proxy permet de enregistrer tout ce qui se trouve, tout ce qui font les gens. Et il archive tout derrière. OK, tous les choses. On utilise celui-là, mais programmatiquement. On ne fait pas manuellement, bien sûr. Et pour archiver les images, on extrait les images, on envoie dans ce système-là, qui est Live Archiving Proxy.
Vous voulez envoyer le résultat de vos revenus de l'API ou directement les pages HTML?
Non, une fois on archive, on n'arrête jamais. Parce qu'il ne faut pas arrêter, il ne faut pas parser les données, il ne faut pas dire activité, attends, je ne veux pas les données, etc. On archive tout.
Ouais.
Une fois on a archivé tout, pendant ça continue, mais on fait un scan, on sort l'étiquette qui contient les métadonnées des images.
D'accord.
Et quand on le trouve URL d'une image, on va l'envoyer à Live Archiving Proxy et c'est archivé automatiquement.
D'accord. Donc en fait, vous utilisez juste la fonction téléchargement de ressources de votre Live Archiving Proxy.
Exactement.
Sous-employé dans ce contexte. Quoi. Ok, d'accord. Et vous avez donc une base de données qui...
C'est pas une base de données, on scanne trop bêtement les fichiers JSON et c'est tout.
Et les images sont stockées sur un serveur
Les images sont stockées après exactement comme une page web dans notre système, dans notre framework général.
D'accord.
Désolée de vous, moi ça m'intéressait énormément, mais pas tout le monde.
Pardon.
Il y a d'autres questions? Peut-être on peut, Gérald, clôturer la journée là. Et continuer la discussion formellement, plus technique, peut-être. Je vous remercie d'être venu. J'espère que ça a été intéressant. Voilà.
Merci.
Et on continuera peut-être avec d'autres séminaires. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Là, on a fait une idée entre nous aussi, des projets pratiques.
On s'est dit autant à plus de personnes.
C'est vrai qu'on voit bien la différence, de qualité, mais enfin si on peut dire de qualité des corpus en fonction des API, en fonction de tout ce qu'on peut mettre en place, voire à la main, on la différence aussi à la main. C'est assez impressionnant.
Un grand merci, pardon.
Ouais, c'est vrai que c'était un très bel outil et on a hâte de voir celui.
Il faut que les gens soient beaucoup plus au courant et on travaille beaucoup plus ensemble parce que ce qu'on essaie de faire, c'est à peu près la même chose. Nous, on a besoin des utilisateurs et qui sont des chercheurs et les chercheurs, ils ont besoin des outils et les données. À nous, on a les outils et les données, mais on n'a pas des chercheurs.
Ah ben, on
et...
va arriver.
Ouais.
Ne vous inquiétez pas, on va venir.
Juste la question des émoticônes en discutant. Dans le cadre de notre corpus, on a vu apparaître tout un tas d'images qui sont pas, enfin de caractères images qui ne sont pas des émoticônes, qui sont par exemple le R inversé pour l'évolution dans le cadre de certains tweets de la
fin d'Orient.
Complotiste, il y a aussi le signe des chrétiens d'Orient, soutien aux chrétiens d'Orient qu'on retrouve là-dedans. En fait, il y a des choses qui sont ni des émoticônes, ni des caractères qui... nous intéresserait aussi de creuser une symbolique de la croix, une bonne religion.